au XXe siècle, bien entendu. Nous avions vu la dernière fois que, dès le début des années 70, en Europe, l'Église catholique avait, pourrait-on dire, fait une OPA sur le mouvement charismatique, sur le conseil des évêques américains, qui avaient tenu leurs collègues européens au courant de ce qui se passe aux États-Unis, de telle manière qu'ils ne soient pas débordés par le mouvement comme les Américains l'avaient été. Et en France, en Europe, on va avoir deux phénomènes qui vont se manifester. D'une part, ce qui est contraire à ce qui se passe aux États-Unis, d'abord, à savoir que, alors que la plupart des dénominations protestantes américaines étaient entrées dans le mouvement de l'esprit bien avant l'Église catholique, et par conséquent, aux États-Unis, l'Église catholique ne parviendra pas à prendre le leadership du mouvement. C'est le contraire qui se passe en Europe d'une manière générale. La plupart des grandes dénominations protestantes restent allergiques, si j'ose dire, au mouvement de l'esprit, ce qui fait qu'elles laissent le champ libre à l'Église catholique. Et c'est à partir de l'année 1973 que cette mainmise catholique sur le mouvement qu'ils appellent déjà le renouveau charismatique, puis le renouveau tout court, on largue même le mot charismatique, n'est-ce pas, devient vraiment effectif grâce à l'entrée en liste d'un poids lourd de l'Église catholique, le cardinal Suenens, primat de Belgique. Le cardinal Suenens, pour parler de ses antécédents, était le président de la Légion de Marie mondiale, donc il avait des responsabilités mondiales dans le domaine de l'Église catholique, et sur recommandation du Vatican, il accepte de devenir le leader, le responsable du mouvement charismatique en milieu catholique. Son titre officiel est surveillant épiscopal du renouveau pour que le mouvement soit intégré dans l'Église catholique. On va donc assister à une catholicisation du mouvement. Le cardinal Suenens, par s'initier au mouvement dont il ne connaît rien au départ, voilà, aux États-Unis d'abord, auprès d'un des théologiens catholiques du mouvement américain, Rolf Martin, qui se trouve à Ann Arbor. Cette même année, ce même été 1973, Suenens assiste à une retraite du mouvement charismatique catholique, qu'on appelle à cette époque-là encore pentecôtiste catholique, à l'Université Notre-Dame, aux États-Unis. C'est au cours d'une de ces grandes conventions qui marquent l'été 1973 aux États-Unis que David Wilkerson, qui est considéré jusqu'alors comme un des leaders du mouvement de l'esprit, puisque son livre « La croix et le poignard » a été un des détonateurs du mouvement charismatique, notamment du catholique, va prendre position contre le mouvement catholique pentecôtiste. Il le fait d'une manière assez dramatique, en faisant mention d'une ce qu'il appelle une vision qu'il aurait reçue peu de temps auparavant, où le Seigneur lui montrait un certain nombre de malheurs qui devaient atteindre l'humanité dans les temps qui sont les temps de la fin, ces temps dans lesquels on était. Et parmi les malheurs qu'il exposait, il voyait une persécution sans précédent contre les catholiques pentecôtistes de la part de leur propre Église. Cette prise de position assez surprenante, il faut dire, et provoque des réactions diverses. D'abord, dans les rangs des amis de Wilkerson lui-même, c'est-à-dire des protestants, et notamment David Duplessis fait part des réserves qui sont les siennes par rapport à cette vision de Wilkerson, s'en démarquant très très nettement. Comme la plupart, d'ailleurs, des leaders protestants du mouvement charismatique. Et, bien entendu, du côté catholique, c'est une levée de bouclier totale qui va provoquer des effets pervers. Parce que, précisément, pour prouver que Wilkerson s'est trompé et que, contrairement à ce qu'a annoncé Wilkerson, Non seulement les catholiques ne sont pas persécutés par leur Église et ne vont donc pas quitter leur Église comme Wilkerson l'a annoncé, ils vont au contraire donner des gages d'une fidélité à la tradition catholique pour pouvoir être de plus en plus intégrés dans leur Église. C'est, sans vouloir faire de jeu de mots mal placés, du pain béni pour le cardinal Swenas, qui a précisément pour but cela, la récupération du mouvement charismatique pour le milieu catholique. En décembre 1973, a lieu à Rome une rencontre des catholiques charismatiques sous la direction du cardinal Swenas. Et là, on prend acte du fait que le catholicisme s'intéresse beaucoup plus que les protestants au mouvement de l'esprit. Le catholicisme a flairé qu'il y a là, comme il le dit d'ailleurs, une possibilité de renouveau pour l'Église catholique, une Église catholique qui, en cette fin du XXe siècle, est en pleine débine. Il y a une véritable révolte intérieure au sein de l'Église catholique qui suit le mouvement des Sixties. L'Église catholique est contestée partout, sa hiérarchie, etc. Il y a un effondrement dramatique des vocations. Parmi les prêtres, des milliers, des dizaines de milliers de par le monde défroquent, soit pour se marier, étant réduits à l'état laïque, soit filant carrément dans des mouvements politiques de gauche, socialistes et même communistes. Bref, c'est une véritable catastrophe qui atteint l'Église catholique à la fin du XXe siècle. Et c'est alors que les autorités catholiques se rendent compte qu'au travers de ce qu'ils appellent le renouveau, il y a effectivement une possibilité de redynamiser l'Église catholique. Et il s'agit donc de récupérer le mouvement charismatique dans le but de revitaliser, redynamiser une Église catholique en perte de vitesse. Et maintenant, avec le recul, on peut constater que ce programme a été en partie réalisé, dans ce sens que, de fait, il y a eu, par l'intermédiaire du renouveau, un certain retour d'un certain nombre de gens à la tradition catholique. La plupart des vocations, des maigres vocations, bon, il y a eu un petit renversement de tendance à partir justement des années 80, fin des années 70, début des années 80, une légère augmentation du nombre des vocations en Europe en tout cas, et 80% des vocations étaient celles de gens qui étaient issus des milieux du renouveau. Donc, le calcul des autorités catholiques n'était pas tout à fait faux, même s'il était loin, il est loin d'être proportionnel à ce que précisément les autorités catholiques avaient espéré. Donc il y a ici un retour des catholiques charismatiques dans la tradition et dans les pratiques romaines, on pourrait presque dire parfois les plus outrancières. Hein? La mariologie, par exemple, est réintroduite sous l'influence du cardinal Swenas, président de la Légion de Marie, comme nous l'avons dit, hein, alors qu'il était totalement évacué donc, dans les premières années du mouvement. Il y a retour à à une vie sacramentelle très forte, pèlerinage, retour aux images saintes, aux statues, au culte du Saint-Sacrement, enfin bref, tout ce qui appartenait presque, je dirais, au catholicisme préconciliaire, en sorte que c'est presque là, le mouvement charismatique va presque se confondre avec l'aile intégriste, pourrait-on dire, ou en tout cas traditionnaliste de l'Église catholique. Cette évolution, évidemment, des catholiques charismatiques va rendre de plus en plus difficile la pratique de l'œcuménisme charismatique. Une des grandes espérances qu'avait soulevée l'irruption du mouvement charismatique en milieu catholique, c'était que précisément, au-delà justement de l'œcuménisme traditionnel marqué par des confrontations doctrinales, par exemple, le groupe des dons ou des choses comme ça, sur lesquelles nous aurons l'occasion de reparler quand nous parlerons d'œcuménisme, il y avait un œcuménisme de l'esprit qui était en train de naître. Et que les différences ecclésiales, d'une part, disparaissaient totalement dans les premiers temps du mouvement. Et puis, même les divergences doctrinales avaient tendance à s'estomper, comme ce fut le cas, comme je l'expliquais la dernière fois, par exemple pour le père Éginbald, du moins dans le premier temps de son cheminement. À partir de l'année 73, c'est l'inverse qui se reproduit. Il y a un durcissement très net des catholiques charismatiques sur le plan doctrinal et ensuite sur le plan identitaire. Un repli, ça, qui fait que on ne rompt pas d'une manière officielle avec les non-catholiques, mais il y a une prise de distance. Et notamment, les instructions du Vatican et de l'entourage du cardinal Suenens sont très claires aux principaux leaders des groupes de prière catholiques, enfin ou mixtes à cette époque-là, il y a beaucoup de groupes de prière mixtes où se retrouvaient ensemble protestants et catholiques. C'est que les catholiques ne peuvent participer à des groupes de prière que si les groupes de prière mixtes sont dirigés par des catholiques et orientés dans une voie résolument catholique. Dans ce cas de figure, on est prêt à tolérer des participants protestants à condition qu'ils soient à la cinquième roue de la charrette. Et si ce n'est pas possible, si le catholicisme, les représentants catholiques ne peuvent prendre en main le groupe de prière en question, il faut alors rompre et créer un groupe uniquement composé de catholiques à côté du groupe qui, alors à ce moment-là, sera amputé quand même d'une bonne partie de ses forces vives. Donc on voit que l'œcuménisme charismatique prend ici un coup sérieux. C'est pour faire face à cette situation et en même temps pour voir comment réagir en face de cette évolution que le 3 janvier 1974, les principaux responsables du mouvement charismatique en milieu protestant français se rassemblent à Saint-Cyr-du-Mont-d'Or, près de Lyon, pour mettre en place une coordination protestante. C'est les pasteurs Thomas Roberts et Yvon Charles qui, d'un commun accord, sur une suggestion d'Yvon Charles, ont pris l'initiative de cette rencontre. Yvon Charles avait mis en garde déjà depuis un certain temps les responsables protestants et notamment Thomas Roberts sur l'évolution du catholicisme qu'il avait vu venir, si j'ose dire. Un document expérience avait même été écrit donc cette fameuse année-là, qui portait ce titre un petit peu agressif, disons. Non, monsieur le cardinal Suenens, nous ne sommes pas d'accord. Il faut dire que Suenens venait de publier un livre qui n'était pas vrai, les gens, qui était même, pourrait-on dire, mensonger. Par exemple, il y avait un premier chapitre où le cardinal Suenens faisait l'historique du mouvement charismatique, sans parler une seule fois des pentecôtistes classiques. Et le lecteur qui n'aurait pas été averti de l'histoire du pentecôtisme aurait eu l'impression que le pentecôtisme était un phénomène catholique qui ensuite avait touché marginalement quelques protestants comme ça. Bon, ça c'était un exemple de désinformation, si j'ose dire, hein, qui était vraisemblablement calculé de la part du cardinal Suenens et donc des responsables de l'Église catholique. Bon. Il y avait aussi tout un chapitre sur Marie, où Marie était donc représentée comme celle qui dispensait l'Esprit Saint. Il fallait donc passer par Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Et on était fortement invité à prier Marie pour que Marie répande les grâces de son Esprit, puisque, selon la traduction tendancieuse, fausse et mensongère, il s'appelle Jérôme, dans le fameux texte de la prière de la salutation de l'ange à Marie dans le chapitre 2 de Luc, le chapitre 1er de Luc, je te salue Marie, Jérôme a traduit « pleine de grâce ». Et le catholicisme a interprété ce terme comme « dispensatrice des grâces ». Donc, pour obtenir des grâces, et donc, grâce, c'est le « charis » en grec, d'où le mot « charismatique », pour obtenir les charismes, il faut donc passer par celle qui est pleine de charisme, celle qui distribue les charismes, Marie. Bon, vous voyez, on en était arrivé quand même, en un laps de temps très court. Donc, réaction très forte de la tendance pentecôtisante du mouvement charismatique protestant français, au travers de ce document expérience. Et finalement, Yvon Charles parvient à persuader les leaders, enfin les responsables protestants, de se retrouver pour une mise en commun et pour mettre au point une coordination protestante en disant, voilà, il faut que face à cette tentative de récupération catholique, non pas que nous nous présentions compte, mais enfin quand même, que nous ne soyons pas naïfs, que nous ne soyons pas manipulés, et puis que nous formions quand même un front qui soit relativement uni pour pouvoir dire, ben, voilà quelle est notre position, nous, charismatiques protestants. Et la rencontre de Saint-Cyr du Mont-d'Or, de cette rencontre sort un texte qui est une déclaration de foi commune, sur laquelle, en quelque sorte, les leaders protestants répondent au livre du cardinal Svenas, disant bien, le baptême dans Saint-Esprit est une expérience qui suit la régénération par l'Esprit de Dieu, la conversion, la nouvelle naissance. Son évidence normale est le parler en langue. On avait longtemps discuté pour savoir quelle expression prendre. Faut-il parler d'évidence, comme le disent les pentecôtistes? On avait finalement abandonné la formulation des pentecôtistes classiques qui semblait, bon, qui n'agréait pas à tout le monde. Finalement, on avait choisi cette expression. On affirmait que le baptême du Saint-Esprit n'était pas un acte sacramentaire, ça veut dire que il fallait qu'il se passe quelque chose pour qu'on puisse dire que quelqu'un était véritablement baptisé dans le Saint-Esprit, puisque en milieu catholique, c'était tout simplement la réactualisation, le renouveau, d'où le mot renouveau justement, de ce qui avait déjà été reçu au baptême des enfants à 8 jours. Alors ça, nous prenions des distances par rapport à cette affirmation. On redéfinissait ce qu'étaient les charismes, rejetant par exemple les charismes de peinture, de musique, de danse, d'architecture et de tout ce que vous voudrez, qui étaient aussi inclus dans le livre du cardinal Svenas, etc. Et il a donc été décidé que des rencontres biannuelles auraient lieu précisément entre les responsables protestants pour faire le point, justement, de l'évolution du mouvement charismatique vis-à-vis des catholiques, et qu'il s'agissait, justement, ici, de garder ce principe d'une coordination des leaders protestants dans le but de continuer un dialogue avec l'Église catholique, mais d'égal à égal, pas du tout en laissant au catholicisme, en quelque sorte, la part du lion. C'est à cette rencontre de Saint-Cyr du Mont-d'Or que nous avons appris que l'évêque d'Arras, Huyghe, était le premier évêque français qui était baptisé dans le Saint-Esprit et, paraît-il, véritablement baptisé dans le Saint-Esprit. Frère Gérard, comme l'appelaient les catholiques, il a l'impression quand même qu'il a beaucoup évolué par la suite. Et c'est ainsi que, jusqu'en 1987, ont eu lieu 2 fois par an, chez les diaconesses à Versailles, des rencontres des responsables charismatiques français protestants. La première rencontre, qui suivit celle de Saint-Cyr du Mont-d'Or, eut lieu du 15 au 18 mars, et petit à petit, alors, on est sorti de ce qui avait été prévu initialement. Initialement, donc, c'était, encore une fois, une coordination protestante. Et quelques-uns des leaders se sont permis d'inviter des catholiques. D'abord à titre individuel, à titre personnel. Évidemment, ça a été assez gênant au départ, parce que bien sûr, on n'avait plus la même liberté de s'exprimer. Et il y a eu donc, au bout de 3 ou 4 ans, peut-être même avant, une réorientation totale des rencontres de Versailles, qui, au lieu d'être ce qu'elles auraient dû être au début, c'est-à-dire une coordination entre leaders protestants, est devenue un dialogue entre leaders protestants et leaders catholiques. Car ensuite, la partie catholique est venue en tant que telle. D'abord, les catholiques sont venus à titre individuel, puis ensuite, ils sont venus en tant qu'entité catholique, les principaux responsables français du mouvement catholique, du mouvement charismatique catholique, sont venus. Et là, donc, ça a été une discussion très franche sur justement les points litigieux. Et comme le notait Edouard Verduisen, qui a fait l'historique du mouvement charismatique en France, le grand mérite des rencontres de Versailles, c'est que justement, on a osé s'attaquer à tous les problèmes doctrinaux sans en éluder aucun. Tous les problèmes qui faisaient difficulté. On s'est d'abord attaqué à la question de l'ecclésiologie. Qu'est-ce que l'Église ? On s'est attaqué à la mariologie. Et il y avait à ce moment-là aussi donc un certain nombre de pentecôtistes classiques. Bon, à cette époque-là, nous l'étions encore, 73 jusqu'à 75-76. Mais il y avait aussi des gens comme Charles Zé. Je me demande si Roger Coppin n'est pas venu une fois ou deux aussi. Ça, je n'ai plus la mémoire exactement des choses, mais il me semble. Donc, il y a eu un certain nombre de pentecôtistes classiques ouverts qui sont entrés à fond dans le mouvement, faisant confiance au Saint-Esprit, ayant réalisé qu'il y avait dans le mouvement charismatique une œuvre de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit, qu'on ne voulait pas manquer. Et finalement, les pentecôtistes classiques, comme on les appelait à cette époque-là, jusqu'au bout ont voulu y croire. Et là, donc, il y a eu ensuite des gens qui étaient proches du mouvement pentecôtiste classique, tels que Schinkel et Ramseger. Bon, il y avait aussi Guy Bonal, mais qui était un petit peu en retrait. C'était surtout le tandem Schinkel-Ramseger, qui à cette époque-là était très proche justement du mouvement des pentecôtistes classiques, comme on les appelait, n'est-ce pas ? Et là, donc, les pentecôtistes classiques espéraient entraîner d'autres pentecôtistes aussi dans le mouvement charismatique. Ça, c'était aussi un des grands soucis de ces rencontres, de Versailles d'une part, et puis aussi d'autres rencontres qui pouvaient avoir lieu dans d'autres instances. Et les pentecôtistes classiques plaidaient dans les rencontres des Assemblées de Dieu, notamment pour que ces dernières s'ouvrent au mouvement charismatique. Des gens comme Roger Coppin et d'autres ont été un temps ébranlés. Et puis, il est vrai que l'évolution du mouvement charismatique catholique, notamment le livre de Swenens, n'a pas aidé. Et les quelques pentecôtistes classiques qui s'ouvraient quelque peu, à partir de ce moment-là, se sont refermés. Ils ont constaté que le mouvement charismatique en milieu catholique, notamment, n'allait pas dans le sens de ce que l'on pouvait espérer, c'est-à-dire, justement, d'abord vers une ouverture aux autres, et ensuite vers une évolution doctrinale. Et prenant acte de cette situation, en 75 notamment, une convention qui avait lieu dans le sud, c'était dans la colonie de vacances là-bas à Gap, les Assemblées de Dieu de France ont rejeté officiellement le mouvement charismatique et ont fermé la porte. Ça, c'était donc une décision qui a mis donc des gens comme Le Cossec, Yvon Charles et moi-même, finalement, dans une position un peu difficile par rapport au mouvement. Et c'est alors que, là aussi, une autre évolution a eu lieu. Les réformés les plus engagés, c'est-à-dire essentiellement Ramseger et Schinkel, ont créé, en 1972, 31 octobre 1972, donc à l'occasion de la fête de la Réformation, ils ont lancé un appel à toutes les églises réformées. Il y avait trois signataires, donc Ramseger, Schinkel et Guy Bonal. Et, ou alors Edmond Schneider de Cognac, je ne me souviens plus. Enfin, bon, il y avait trois toujours. Je pense que Guy Bonal n'avait pas voulu aller jusque-là. Oui, c'était de Cognac, excusez-moi, je me suis trompé. Et ces trois pasteurs demandaient que l'Église réformée se réforme, tout simplement. Disons que 400 ans après Luther, l'Église réformée avait besoin d'une nouvelle réforme, et alors dénoncer l'état de l'Église réformée, la politisation, la dérive gauchisante, la perte de la foi, les dérives et les abandons théologiques, etc., réclamer donc un retour et demander que tous ceux qui étaient d'accord avec cet appel leur écrivent. Ils ont reçu donc un très très abondant courrier, et en octobre 1973, ils ont rassemblé tous ceux, à Paris, tous ceux qui avaient répondu positivement à leur appel. Et c'est ainsi qu'a été créée l'association ANCRE, qui était un sigle qui signifiait association, je ne sais plus exactement, enfin bref, il y avait toute une signification assez, disons, assez combattante. C'était... Bon, et alors, finalement, ce qui était une très bonne idée, que nous appuyions à cette époque-là à fond, puisque dans le même temps se poursuivaient à Carré aussi deux fois par an, donc les séminaires interpastoraux, hein, auxquels participaient tous ces gens-là. Et finalement, ce type d'action qui était interne à l'Église réformée avait quand même été discuté dans ces rencontres interdénominationnelles de Carré. Et finalement, là, il y a eu une certaine dérive qui s'est manifestée assez vite, dans ce sens que les frères de l'encre, comme on a commencé à les appeler à cette période-là, ont un peu rapidement mélangé des genres. Non seulement ils militaient pour un réveil de type charismatique dans l'Église réformée, qui était d'ailleurs toujours allergique, comme elle l'avait été au moment de l'affaire de la Brigade. Hein. Ça n'avait pas évolué du tout depuis la Brigade, hein, depuis la prise de position qui avait fermé la porte au mouvement pentecôtiste. Mais aussi, ils dénonçaient la politisation de l'Église réformée. Et alors très vite, ils se sont marqués politiquement. Et ça nuit considérablement à leur cause. Ils ont donné du réveil charismatique en milieu réformé une image conservatrice, réactionnaire et très agressive. Leur agressivité les a desservis, énormément desservis. Et par exemple, un homme comme Georges Appiah, qui était responsable des relations œcuméniques, donc l'alter ego du responsable catholique, donc la plus grande autorité française protestante en matière d'œcuménisme, a pris ouvertement ses distances vis-à-vis des gens de l'encre, notamment. En disant que lui-même était très très ouvert au charisme, et ça on avait eu l'occasion de rencontrer, et c'est exact, il était allé aux États-Unis, il était allé dans les milieux charismatiques, il avait assisté lui-même à des guérisons miraculeuses, il était rentré absolument enthousiasmé. Mais qu'il reconnaissait ne pas pouvoir suivre l'évolution des réformés charismatiques qui s'étaient regroupés dans cette fameuse association qui était l'association de l'encre. En mars 1974, le 28 mars 1974, très exactement, dans un article dans un grand journal protestant, Georges Appiah dénonce l'esprit de ghetto qui anime les gens de l'encre. Sous-jacent dans cette querelle intra-réformée, réapparaît également la question de ce que les réformés appellent le rebaptême. Comme je vous ai expliqué, les réformés les plus engagés se faisaient baptiser par immersion, tel par exemple Edmond Huxner de Cognac, que je faisais allusion la dernière fois. Charlie Schinkel a été baptisé à Carré l'année suivante, dans les mêmes conditions que son collègue un an auparavant. Gaston Ramseyer, pour sa part, l'a été aussi. D'autres pasteurs réformés, dont je tairai les noms par prudence, sont venus, alors cette fois-ci, secrètement, se faire baptiser à Carré. Bon. Mais des gens comme Schinkel, des gens comme Exner de Coninck, n'ont pas hésité à clamer sur les toits qu'ils avaient été baptisés. Charlie Schinkel avait écrit un article assez fracassant dans un des expériences de cette année-là, de ces années-là, je veux dire, qui portait ce titre « Un pasteur peut-il se convertir ?» Alors vous voyez que c'est rien que le titre était là pour faire grincer des dents. Bon, on y voyait d'ailleurs une photo de la façade de la faculté de théologie de Paris assez lépreuse, avec un graffiti, n'est-ce pas, qui était là en travers, qui datait de mai 68. Il y avait eu alors aussi une interview qui avait fait un bruit terrible, qu'on avait faite à cette époque-là, du temps où on était un peu combatif, un peu trop d'ailleurs. On avait rassemblé pour ce fameux document sur le protestantisme, à la suite, d'ailleurs un peu dans le courant de nos frères ici, Charlie Schinkel et Gaston Ramseger, l'élite des étudiants de la faculté de théologie de Paris, les gens qui arrivaient en troisième année, en fin d'études, et on les avait interviewés sur ce qu'étaient les bases de leur foi après leurs années de théologie, etc. Et j'aime autant vous dire que ça valait, c'était au ras des pâquerettes. Ils étaient quatre, dont un de mes cousins d'ailleurs. Un des premiers, à bafouiller, en disant moi j'ai rien à dire, non, finalement j'ai rien à dire. Puis après j'ai cliqué, c'est là qu'il est sorti. Il y avait une demoiselle d'un certain âge, 35, 40 ans, qui était là. Je suis rentré dans le pastorat parce que j'aime parler aux gens. Alors comme j'aime parler, on parle beaucoup dans le pastorat, alors j'ai fait des études de théologie, puis je vais être pasteur. Voilà à peu près. Le troisième, il avait aussi plus de foi. Puis il y avait un Africain auquel il restait un petit quelque chose, quoi. Alors on a fait un rapport fidèle dans l'expérience de ce qu'on avait vu et entendu. Vous imaginez, le comité de la faculté de théologie de Paris a fait un comité d'urgence pour discuter du numéro d'expérience, avec un démenti à la clé, etc. La fédération protestante aussi en a discuté. Enfin, ça remuait pas mal, disons. Alors bon, voilà, donc ça c'était un petit peu les années héroïques, si j'ose dire. Et donc, les réformés ont réagi sur la question du rebaptême, comme ils l'appelaient. Et alors, nos frères se sont trouvés en difficulté plus encore sur la question du rebaptême, comme toujours d'ailleurs. C'est toujours le problème au milieu réformé. C'était pas nouveau. Hein. Ça avait été la même chose au moment du réveil pentecôtiste des années 30. Hein. Et là, à nouveau, nos frères se sont trouvés en difficulté dans ce domaine-là. Du côté catholique, il était clair que les catholiques voulaient que le renouveau soit le fer de lance de la renaissance de l'Église romaine, comme je disais tout à l'heure. Et en milieu catholique, il y avait des gens qui étaient conscients de cette évolution néfaste. En particulier, un prélat américain, le père Kilian McDonnell, qui était un ami très proche de Duplessis, qui était conscient des dangers de la confessionnalisation qui était en train de se produire dans le mouvement charismatique, et qui exposait publiquement ses inquiétudes. Mais il était parfaitement conscient que le courant ne pouvait plus être renversé, que le Vatican avait les choses en main et que c'était trop tard, en quelque sorte. Et alors, là, il y a eu une volonté très nette du côté catholique de se distancier à fond du protestantisme charismatique, y compris dans ses manifestations. Et c'est ainsi que dans les réunions dites du renouveau, le parler en langue a été remplacé par le chant en langue. C'était volontairement, systématiquement, un chant assez mécanique, n'est-ce pas, pour se différencier du mouvement charismatique protestant qui mettait l'accent évidemment sur l'aspect individuel, tandis que le catholicisme mettait l'accent sur le collectif. La base du charismatisme catholique n'était plus l'expérience personnelle du baptême dans le Saint-Esprit, mais la participation eucharistique. Vous voyez l'évolution. Donc on était revenu dans une dimension sacramentelle. Maintenant, il était clair que le catholicisme voyait également, et ça c'était un des grands sujets de préoccupation que nous avions, voyait également dans le mouvement charismatique une occasion de récupérer, sinon l'ensemble des protestants charismatiques, en tout cas une partie d'entre eux. Et il faut rendre cette justice du côté des Assemblées de Dieu, on avait vu la manœuvre. Du côté du groupe de Carré, comme on l'appelait à cette époque-là, c'est pareil. On avait tiré la sonnette d'alarme, même si, à cette époque-là, le groupe de Carré essayait encore d'y croire, si j'ose dire. Et, de fait, les événements n'ont pas tardé à nous donner raison. Et notamment, un certain Bernard Croissant, qui était d'abord... avait été étudiant aux Beaux-Arts, était originaire de Nancy. Il avait fréquenté Lanza del Vasto et avait participé à... Il était attiré par la vie communautaire. Puis il était devenu proposant, il avait fait des études de théologie protestante, il était devenu pasteur proposant à Valence. Et là donc, il avait créé une communauté de type charismatique dans le cadre de l'Église réformée de Valence qui s'appelait le Lion de Juda. Bernard Croissant était en contact très étroit avec les catholiques, et notamment à Pâques 73, il avait provoqué un scandale dans son église réformée parce qu'on avait appris que à cette occasion, il avait pris l'Eucharistie catholique dans un couvent catholique. Alors bon, il a été traduit devant ses autorités qui lui ont demandé des comptes. Ça s'est terminé un peu en queue de poisson. Il a continué son ministère. Et en 1974, il a eu une vision de la Vierge, du moins à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a eu d'abord une vision du Christ, et à côté du Christ se trouvait une femme, et le Christ serait tourné vers lui en lui disant « Voici ma mère ». Et alors, sous cela, les traits de cette femme, Bernard Croissant aurait reconnu la Vierge Marie. Et à la suite de cette vision, Bernard Croissant adopte la vision catholique sur la Vierge Marie. Vision catholique qu'il essaye, dont il se fait le propagandiste, on pourrait-on dire, en milieu protestant, y compris dans nos rencontres de Versailles. Il essaie même d'entraîner Thomas Roberts dans cette vision-là. Il essaye d'entraîner des gens du groupe de charme dans une vénération de la Vierge. Cette même année, il assiste au rassemblement catholique à Rome, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, et à la fin de ce rassemblement catholique, il annonce publiquement qu'il reconnaît le pape comme le successeur de Saint-Pierre. C'est alors que Thomas Roberts se rend compte que son poulain est allé beaucoup trop loin, et il tente de le freiner. Rien n'y fait. En 78, Bernard Croissant démissionne de l'Église réformée, deviendra diacre de l'Église catholique, et il entraîne dans le passage au catholicisme donc 50 jeunes protestants de l'Église réformée de Nancy. Ça, évidemment, ça fait très très mal dans l'Église réformée. Le synode réformé Rhône-Alpes traite du sujet en 1975 et c'est évidemment un coup d'arrêt très net en milieu réformé au mouvement charismatique. L'Église réformée dit si le mouvement charismatique est un cheval de Troie pour récupérer des membres de nos églises, y compris des pasteurs, alors nous ne voulons plus rien avoir avec le mouvement charismatique. Et finalement, on assiste, dans cette année-là, à une démarche de fermeture un peu semblable à celle qui avait marqué, à la fin des années 30, donc la prise de position réformée contre le mouvement pentecôtiste. Pour d'autres raisons, mais finalement, un petit peu la même chose. Et par conséquent, la deuxième moitié de la décennie 70 va être marquée par des ruptures. Rupture donc ici de Bernard Croissant avec son Église et une partie donc de jeunes réformés. Et puis aussi un groupe interconfessionnel qui s'appelle le Pain de Vie, donc un groupe de prière interdénominationnel, opte pour le catholicisme et l'acceptation des règles romaines, se met sous la responsabilité de l'évêque du lieu, donc une catholicisation totale. C'est en Normandie que se produit donc qu'existait ce pain de vie, à Évreux. Et le pasteur Émile Dallière, qui est pasteur d'une église charismatique indépendante, mais qui existait bien avant le réveil charismatique, prend ses distances, crie à la récupération romaine et constate qu'il y a un échec, que précisément lui, Émile Dallière, pensait pouvoir dépasser par l'intermédiaire de ce groupe de prière les clivages entre les églises et que finalement, ça n'a d'autre effet que de tourner au bénéfice de l'Église romaine. Pendant ce temps, les relations entre Ancre et l'association Ancre et l'Église réformée ne cessent de se détériorer. Et Ancre se livre en particulier à une attaque très violente du modernisme, notamment du Conseil œcuménique des Églises. Ce faisant, évidemment, se met à dos une bonne partie des gens de son Église. Ancre attaque l'hypocrisie du CEE, ce sur quoi il a parfaitement raison, qui dénonce les persécutions ou les excès, les atteintes aux droits de l'homme qu'on lui en Amérique du Sud, mais qui ne dénonce jamais les persécutions qui ont lieu contre les chrétiens à cette époque-là en URSS. À partir de 1975, Ancre crée deux journaux. Un petit journal, sur les conseils d'ailleurs des frères de la pastorale de Carhaix, qui se sentent un petit peu mal à l'aise aussi devant une certaine évolution prise par leurs frères. Et finalement, il est décidé de créer deux journaux. Un qui serait uniquement interne à l'Église réformée et qui consisterait précisément à dénoncer l'hypocrisie du CEE, le modernisme, la dérive théologique des églises historiques, etc. Bon, et qui prend donc le nom de courrier de l'encre. Un deuxième qui est beaucoup plus général et qui est moins agressif et qui portera le nom d'acte 2. Acte 2, parce que c'est une référence à un récit de la Pentecôte qui est contenu dans le deuxième chapitre du livre des Actes. Bon, déjà, ce titre est source de problème parce qu'il existe en Suisse, dans des milieux charismatiques également, un journal qui s'appelle Actes, et qui est un sigle d'action des chrétiens témoins dans leur entreprise. Et les gens d'Actes, acte 1er, contre acte 2, apprécient peu que... Enfin bon, il y a toute une querelle. Finalement, le ton tourne allègre, et c'est finalement assez négatif. Et en fin de compte, ce journal acte 2 prend le relais d'expérience comme organe principal du courant charismatique protestant. C'est-à-dire que là, finalement, expérience va se trouver supplantée. Il faut bien dire qu'il y a un petit peu aussi une crise dans cette époque-là au sein des charismatiques protestants pour le leadership en milieu protestant. Jusqu'alors, le leadership était assuré sans contestation aucune par le pasteur Yvon Charles, le Cossack Yvon Charles, disons, qui avait été les premiers à lancer le mouvement. Le tandem Schinkel-Ramseyer a un peu tendance à arriver dans les brancards, et on sent qu'eux voudraient un petit peu doubler les choses. Finalement, dans un esprit d'apaisement, Yvon Charles accepte de laisser naître un autre journal, Acte 2, bon, auquel il accepte d'ailleurs de collaborer. Bon, petit à petit, sa collaboration va se réduire, n'est-ce pas ? Et c'est finalement l'équipe d'Ancre qui va manager ce journal. Dans cette année-là, l'équipe d'Ancre est rejointe par un outsider, Jean-Louis Jaillet, qui est pasteur à Vichy, où il a créé un centre qui s'appelle Vie Abondante. Jean-Louis Jaillet est un ancien disciple d'Albert Burckhardt. Il a été formé à la Porte Ouverte. Et il a un peu la vision de Burckhardt de créer une sorte de centre un peu semblable à celui de la Porte Ouverte. Jean-Louis Jaillet est un évangéliste de grand talent qui copie énormément les Américains, avec déjà ce que les Américains peuvent avoir d'excessif. Et là, donc, Jean-Louis Jaillet est très en phase, pourrait-on dire, avec Ramseyer et Charlie Schinkel, qui finalement accepte, essaye de le faire adopter dans l'équipe de la pastorale de Carré. Finalement, bon, ben, Jean-Louis Jaillet est accepté au sein de cette équipe-là. Pour ce qui concerne justement des gens de l'Ancre, ils ont en 1975 un camp extrêmement difficile en Normandie. Ils ont entrepris des camps, donc, en Normandie, à cause du nombre des participants. Et ils se mettent donc à la recherche de locaux plus grands. En janvier 1976, l'Assemblée générale d'Acte 2 se penche sur la question du rebaptême, qui fait problème par rapport à l'Église réformée. Et le 15 octobre 1976, le pasteur Charlie Schinkel est exclu officiellement de l'Église réformée de France, au moment même où il vient d'acheter des locaux pour créer un centre à côté de l'endroit où il se trouve, à Louveteau. Donc, il quitte sa paroisse, la paroisse de Luneray en Normandie, à laquelle il était pasteur, dont il a donc été exclu en juillet 1977, pour s'installer à Louveteau, qui devient son centre de rayonnement. Dans le même temps, et pour les mêmes raisons, Gaston Ramseyer, sans pourtant avoir été exclu de l'Église réformée, quitte la paroisse de Charleville, dont il était le responsable, pour devenir évangéliste itinérant, en liaison donc avec le centre de Louveteau. Donc, rupture d'un autre type, cette fois-ci, par rapport à l'Église réformée. Ou bien alors, les pasteurs charismatiques réformés quittent pour se rejoindre l'Église catholique, ou bien ils quittent pour créer des œuvres indépendantes. Beaucoup plus proche du pentecôtisme classique, d'ailleurs, que d'autres choses. Et là, ils vont... Charlie Schinkel, qu'il reste dans l'Église réformée, alors que, bon, l'Église réformée n'a pas été correcte dans cette affaire, mais il est certain que l'agressivité de Charlie Schinkel n'a pas aidé. Et on se prend à rêver de ce qui se serait passé si Charlie Schinkel était resté au sein de l'Église réformée, ayant créé ce centre de Louveteau, ou ayant donc créé un courant charismatique équilibré, non agressif. Il aurait un petit peu essayé de faire ce que la brigade aurait dû faire aussi et qu'elle avait raté. Finalement, c'est une deuxième occasion ratée. Finalement, l'œuvre de Louveteau va devenir une œuvre beaucoup plus marquée par l'influence de gens comme Jean-Louis Jaillet, donc très américanisée dans son style, dans sa théologie, dans sa manière d'être, adoptant le pentecôtisme le plus extrémiste, disons, finalement. Et par conséquent, se coupant totalement de l'Église réformée. Et au lieu d'accueillir des gens sérieux qui, dans l'Église réformée, auraient pu être à la recherche de quelque chose d'authentique, il va plutôt drainer des gens qui sont un petit peu des marginaux de, tout de toutes les églises pentecôtistes ou autres, justement, parce que ils étaient considérés comme trop extrémistes et trouvent là donc les moyens d'un exutoire. Bon, c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Donc, à partir de la fin de la décennie, il y a un repli de l'œcuménisme, d'une manière générale d'ailleurs, pas seulement de l'œcuménisme charismatique, mais de l'œcuménisme d'une manière générale. Et puis, le mouvement des communautés, qui avait été concomitant avec le mouvement charismatique, qui était né après mai 68, indépendant d'ailleurs parfois de toute dimension religieuse, décline également. Le 30 mai 1977, les catholiques organisent un grand rassemblement de Pentecôte pour l'unité, dans lequel se retrouvent 10 000 catholiques et 7 000 protestants. C'est à cette occasion que frère Roger de Thésée affirme haut et fort que l'unité ne se fera qu'autour d'un pasteur unique. Donc à nouveau, tendance de plus en plus catholique de Thésée, qui rejoint donc l'évolution de Bernard Croissant, et qui effraie, bien légitimement, nombre de protestants, y compris dans l'Église réformée elle-même, où, en principe, on n'est quand même pas fermé à l'œcuménisme. Et il est certain que, dans les années 70, le mouvement charismatique catholique se développe extrêmement rapidement dans le milieu catholique, malgré certaines hésitations de la hiérarchie parfois. À partir de 1975, la porte ouverte, où se sont tenues donc depuis 71-72 les rencontres interdénominationnelles charismatiques d'été, va connaître des difficultés. D'abord, Thomas Roberts crée l'attente de l'unité. Il veut que catholiques et protestants évangélisent ensemble à la pentecôtiste, en quelque sorte. Mais les gens qui se convertissent sont renvoyés dans leurs églises d'origine. Évidemment, l'Église catholique voit immédiatement le bénéfice qu'elle peut tirer de l'affaire. Ça veut dire que le dynamisme des évangélistes protestants, dynamisme qu'elle est loin de pouvoir égaler dans son sein, va être mis au service d'une revitalisation de l'Église catholique. Car il est évident que dans les rencontres de l'attente de l'unité, il y aura peut-être 1% de gens d'origine protestante qui donc, s'ils se convertissent, retourneront dans une église protestante, et 90% de gens d'origine catholique qu'on va donc pousser à retourner dans l'église catholique. Alors il est évident que ce sont des choses comme ça que le groupe de Carré rejette. Là, il y a à nouveau une rupture. Bon. En 1976, la retraite d'été de la Porte Ouverte rassemble 1700 participants. De son côté, donc, le groupe de Carré tient des retraites annuelles au centre missionnaire, à Pâques et à l'été, qui regroupe évidemment nettement moins de monde. En 1974, le groupe ACT, Action des chrétiens témoins dans leur entreprise de Suisse, qui est présidé par le docteur Philippe Gold, qui est prima docent de l'Université de Genève, donc c'est un universitaire, achète en Cévennes un domaine, s'appelle le domaine de Gagnères, pour y organiser des rencontres de jeunes. Et en 1974, a lieu à Gagnères la première rencontre de jeunes qui est organisée par, qui est présidée par le pasteur Thomas Roberts. Donc, les rencontres vont avoir lieu dans ces centres-là. Il va y avoir trois grands centres. Le principal sera la Porte Ouverte. Puis petit à petit, deux réunions de jeunes, deux rassemblements de jeunes, on va passer à deux rassemblements pour le tout venant à Gagnères, et puis donc le centre missionnaire de Carré. Jusqu'en 1981, les rencontres d'été auront lieu dans ces trois centres-là. En 1984, Thomas Roberts entend organiser ce qu'il appelle les montées à Jérusalem. Il entend sensibiliser le mouvement charismatique à deux choses. D'une part, à la question d'Israël, et d'autre part aussi, il pense que peut-être que le mouvement charismatique pourrait amener la conversion du peuple d'Israël. Et donc, il pense à cette possibilité d'organiser pour la Pentecôte de l'année 1984 une montée en masse de charismatiques venus du monde entier, venus à Jérusalem pour prier pour l'unité de l'Église et ce qu'il appelle la conversion du peuple d'Israël. Bon. Alors, cette rencontre est précédée par d'autres rencontres plus localisées. La principale d'entre elles est la rencontre de Strasbourg pour la Pentecôte de l'année 1982, qui porte le nom de Pentecôte sur l'Europe. Il s'agit de rassembler à Strasbourg des charismatiques protestants et catholiques venus de toute l'Europe. Thomas Roberts veut une large représentation dans le comité d'organisation, qui va depuis les pentecôtistes classiques jusqu'aux catholiques charismatiques, bien entendu, qui auront malgré tout, de par leur poids et de par leur nombre, la part du lion. L'archevêque de Strasbourg étant celui qui va accueillir, en fin de compte, la rencontre. Donc il invite aussi Yvon Charles à participer pour représenter la tendance qui est la sienne. Et Yvon Charles reçoit le nom de Dieu. Le Seigneur lui dit de ne pas participer à ce comité. Mais par contre, lui dit de se rendre incognito, donc à la rencontre de Strasbourg. ce qui permet d'écrire un document expérience en toute indépendance et en toute liberté et en toute objectivité sur ce qu'a été Strasbourg. Et le document qui suit Strasbourg, qui est un petit peu, si vous voulez, le pendant de celui sur le cardinal Suenas, va avoir le même impact. Le document qui suit Strasbourg met en garde contre la dérive du mouvement charismatique et sa mainmise, la mainmise sur lui de l'Église catholique. Et ce document fait tellement de bruit qu'il est au cœur d'une controverse entre les évêques catholiques et les représentants de la Fédération protestante de France qui le jettent sur la table. Vous regardez ce qu'on écrit dans vos milieux. Et les représentants de la Fédération protestante sont très heureux de dire, eh bien, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui est écrit dans ce livre. Et ils citent Bernard Croissant, ils citent les thésées, les dérives, etc. etc. Évidemment, les catholiques sont obligés de donner des gages de leur bonne foi et de mettre les pouces. Et les protestants décident donc d'organiser à l'intérieur des églises protestantes un colloque sur la question des charismes. Ce colloque est préparé par des rencontres préalables qui sont parallèles aux rencontres de Versailles. Et un colloque général doit rassembler des représentants de toutes les églises de France, de toutes les églises membres de la Fédération protestante en tout cas, pour permettre une mise en commun et une prise de position commune des protestants sur la question du réveil charismatique. Et c'est là qu'on assiste à des freinages alors monumentaux de la part des églises historiques en milieu protestant. Bon. Entre-temps, les choses ont évolué. Les rencontres de Versailles se sont poursuivies. Et alors aussi, à l'intérieur du mouvement, les choses ont évolué. Le groupe de Carré, lui aussi, a connu des ruptures. D'abord, la fermeture des pentecôtistes classiques a fait qu'en 1976, les pasteurs Le Cossec, Yvon Charles, Jean-Marc Taubois et Michel Pelletier ont dû quitter les Assemblées de Dieu, entre autres choses, à cause de leur ouverture charismatique et œcuménique. C'était aussi sous-jacent. Mais surtout, à cause de leur adhésion à la Fédération protestante de France. Par conséquent, cette rupture, qui est douloureusement ressentie par la Fédération protestante, qui espérait voir les Assemblées de Dieu entrer dans la Fédération protestante, apparaît comme un coup d'arrêt très net. Le pentecôtisme classique français refuse donc toute action dans le cadre du mouvement charismatique. Donc, à Versailles, les choses sont changées. Bien. Deuxièmement, en 1987, les rencontres de Versailles arrivent à leur terme. Par la lassitude des participants, qui se rendent compte qu'il y a des crispations sur les identités ecclésiales. La dernière rencontre qui aura lieu en 1986 portera sur le sacrifice d'Isaac. Et l'Esprit de Dieu avait inspiré ce thème. Et l'idée sous-jacente était que chacun considérait son identité ecclésiale comme son Isaac et que le mouvement ne pouvait progresser qu'à une seule condition, c'est que chacun soit prêt à sacrifier son Isaac sur l'autel de la marche avec Dieu, en quelque sorte. En 1987, Thomas Roberts est parti déjà depuis 3 ans. Thomas Roberts meurt en 1984. Sans avoir pu réaliser son rêve des montées à Jérusalem, ce qui fait d'ailleurs que les montées vont tourner court, hein, tourner petit. La première montée de 1984 sera un quasi-échec, précisément pour les mêmes raisons, à cause des identités ecclésiales, qui seront réaffirmées très fort. Et finalement, on continuera un petit peu une sorte de pèlerinage annuel où quelques personnes se retrouvent, d'année en année, mais ça ne marque pas. Par rapport à la vision qui était celle de Thomas Roberts, c'est l'échec total. Et là, donc, 1987, on prend acte d'un commun accord que Isaac n'a pas été sacrifié et qu'il vaut mieux que chacun reprenne ses billes. Et donc, les concertations de Versailles prennent fin. il y aura une tentative de les faire revivre, mais dans l'idée première, c'est-à-dire de faire une rencontre qui soit uniquement une rencontre des responsables protestants. Mais certains sont tellement influencés par le catholicisme qu'il est clair que si les catholiques ne viennent pas, eux non plus ne viendront pas. Si bien que finalement, bien, c'est l'échec. Il y a une ou deux rencontres d'un certain nombre de jusqu'aux boutistes protestants qui se retrouvent là. Puis on constate que c'est inutile de s'acharner, c'est inutile d'insister. Entre-temps, d'autres communautés sont nées, notamment une qui va faire beaucoup parler d'elle, la communauté de la réconciliation et la maison du pain. La communauté de la réconciliation a été créée par un jeune pasteur baptiste, David Berly, sur l'île. David Berly a été formé à Carré, et de là donc est une émanation au début du groupe de Carré. Finalement, on va aussi, comme les frères de Louveteau, prendre son indépendance et son autonomie par rapport à Carré. Et là, il y a des ruptures. Hein, des ruptures. Bon. 75 également, naît une communauté à Toulouse qui est fondée par un homme d'affaires belge qui se nomme Istas. Roger, je crois que c'est comme ça. Roger Istas, tu te souviens plus, Marc? Et qui prend le nom de Saint-Marie. En 1969, donc, le fondateur part. Et donc, c'est la communauté Saint-Marie devient une œuvre aussi qui opère essentiellement dans le sud-ouest. Mais ce qui se passe dans ces années-là, donc la fin des années 70, c'est un émiettement du mouvement charismatique protestant. Un émiettement avec parfois des tensions d'hommes qui font que, bien finalement, le grand rêve du départ... n'est plus qu'un souvenir. Voilà, donc si vous voulez, la décennie 1970, en gros, comment on peut la situer dans l'histoire du mouvement charismatique. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?